Alors, si je passe maintenant à la valeur dans le monde de la musique coloniale, alors là, ce n'est pas une grosse surprise d'imaginer que tout musicien esclave qui se situe dans le champ de la musique coloniale voit sa situation sociale monter. Ça paraît une évidence, hein, pour une raison simple, c'est que ou bien il est esclave employé, enfin employé, il travaille pour un maître, hein, donc le maître le loue à l'orchestre. Et dans ces conditions, il est assez évident que le maître doit le préserver, hein, à savoir que c'est son gagne-pain, c'est sa source de revenus. Donc il est clair que lui aura des conditions bien meilleures que ce qu'il aurait eu s'il avait été esclave de jardin, comme on dit. Donc ça, c'est sûr. Et ce qui est vrai aussi, c'est que si on a des affranchis, et j'en vais vous en montrer deux, si on est des affranchis, là aussi il y a quelque chose qui va changer. Alors ça, c'est tout à fait propre au XVIIIe siècle, et je vais vous en parler un peu plus tard. Alors premier exemple, un exemple d'un musicien de Saint-Domingue qui s'appelle Julien, qui est vendu. Il vend un jeune griffe de 17 à 18 ans nommé Julien, bon musicien et annonçant les plus grands talents pour le violon et l'alto dont il joue déjà supérieurement. Julien a une caractéristique intéressante. Il est bien connu, Julien. On le connaît depuis les travaux de Jean Fouchard dans les années 50 et c'est tout récemment qu'on a eu la suite de l'histoire. Elle est assez étonnante, comme vous allez voir. Julien a une double caractéristique, une triple caractéristique. Il est griffe. Griffe, dans le langage de l'époque, ça veut dire qu'un parent est noir, l'autre parent est mulâtre. Alors, dans quel sens, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Deuxièmement, il est né à Curaçao. Troisièmement, il est virtuose. Donc là, vous l'avez là, mais je l'ai aussi, enfin, on l'a aussi plutôt dans les annonces des spectacles où il joue des concertos. D'accord? Julien va être acheté, il est vendu, donc il va être acheté, et on a trouvé très récemment, grâce aux chercheurs de la généalogie sur la Caraïbe, on a trouvé qui l'a acheté et comment ça s'est passé. Le colon qui l'a acheté s'appelle Belin de Villeneuve, il va aller en France en 1785, il va l'affranchir. Et il a trouvé l'acte d'affranchissement, Pierre Bardin, et il va s'appeler Julien Clarchy, et là, bingo, parce que Julien Clarchy, on connaît très bien. Tous ceux qui travaillent sur la contredanse et le quadrille connaissent très bien, parce que Julien Clarchy, c'est un des créateurs du quadrille. Le quadrille que nous dansons ici a été créé, entre autres, par Julien Clarchy. Donc vous trouverez des quadrilles des années 1815 dans lesquelles vous avez dans l'ordre Pantalon, L'été, La Poule. Alors il n'y a pas Pastourelle à l'époque, il n'y avait pas Pastourelle, il y a La Trénisse. Et puis il manque aussi L'été, on revient à L'été dans le quadrille actuel. Donc il y a presque tout. Et Julien Clarchy, qui est donc affranchi, qui est un virtuose, va être la coqueluche des salons parisiens sous le Directoire. On se l'arrache, Julien l'Américain. Et c'est pas fini. L'histoire est encore plus extraordinaire. Il devient maître d'orchestre, chef des bals à la cour de Napoléon. Donc vous avez des quadrilles qui sont éditées dans les années 1810. Vous en avez des tas, des tas, des tas, des tas, des centaines de quadrilles qui sont de Julien Clarchy. Avec marqué Julien l'Américain, maître des bals de Napoléon. Donc voilà, esclave à Saint-Domingue, devenu chef d'orchestre à la cour de Napoléon. Donc ascension fulgurante, hein, ascension sociale fulgurante. Voici un autre musicien qui, lui, est à Saint-Domingue, et seulement à Saint-Domingue. Alors je vais vous grossir. Voici donc un musicien qui, lui, restera à Saint-Domingue jusqu'à la Révolution. Et voici sa situation sociale, c'est assez intéressant, c'est son contrat de mariage. Joseph, dit César, nègre libre du Cap et demeurant rue Taranne, maître de musique, ce qui signifie qu'il peut donner des cours et qu'il peut diriger l'orchestre du Cap. Il est capable de le faire, c'est son titre. Et joueur d'instrument, majeur, fils légitime du défunt César et de Marie-Jeanne, nègre et négresse libre, ce qui signifie, si on ne dit rien de plus, c'est que les deux personnes, César et Marie-Jeanne, les parents, sont créoles. Et Pierre Médor, sa femme est mineure, donc c'est le père de la femme qui signe. Pierre Médor dit Augère, nègre libre, maçon, nation mandingue. Donc le père de la femme est né en Afrique, demeurant au Cap, en sa maison, rue Saint-Simon, et Marie-Isabelle, dite Arnaud, négresse libre, son épouse, nation Cuedo. Elle aussi, elle est née en Afrique. Donc ses deux beaux-parents sont nés en Afrique. Alors je continue, je vais un peu plus bas, et je regarde qu'est-ce qu'ils avaient comme richesse, les deux. Eh bien regardez, Joseph César, c'est assez étonnant, le sceau du futur époux, consistant en un négrillon nommé Louis, nation Congo, âgé de 12 ans. Quand on voit ça, donc nation Congo, ça veut dire qu'il est né en Afrique. Il a 12 ans. Donc il a vécu le passage du milieu sur un bâton négrier. Il a été acheté à Saint-Domingue, il a appris le violon et il se produira en concert avec Joseph César, son maître. Et puis ensuite, vous avez la liste de ce qu'il possède et vous avez le montant de ce qu'il possède, ce qui sont des sommes assez conséquentes. Hein. 6 000 livres, ça correspond au salaire d'un bon comédien, d'une bonne chanteuse au Théâtre du Cap pour une année. Donc ils possèdent quand même, hein, ils ont de l'argent. Et Joseph César, lui, apparemment, si tout semble correspondre à ce que l'on sait, à ce qu'il dit et puis à ce qu'on peut vérifier, il semble qu'il a pris des cours en Europe. Donc il a été prendre des cours en Europe auprès d'un musicien célèbre qui s'appelle Viotti. Et voilà, il est reparti, il était jeune, et il est reparti ensuite faire une carrière musicale à Saint-Domingue. Et quand la révolution haïtienne va éclater, il va partir au nord et à Philadelphie se produira en concert sur les scènes de Philadelphie avec ses collègues de l'orchestre du Cap. Donc voici des situations sociales assez intéressantes et qui sont d'autant plus intéressantes si l'on regarde ce qu'ils ont fait, ces musiciens. Ces musiciens, ils ont joué à peu près tout. Tout était possible. D'ailleurs, quelqu'un comme Joseph César, vous allez le retrouver, aussi étonnant que ça paraisse, en train de jouer un concerto de Saint-Georges devant le public du Cap, hein, à Saint-Domingue, qu'on appellera d'ailleurs Monsieur de Saint-Georges. Alors qu'en principe, Saint-Georges étant un livre de couleur, même s'il habite en France, on ne doit pas lui donner le terme de Monsieur. Mais bref, on lui donne le terme de Monsieur. Et en fait, on se rend compte que les musiciens qui étaient des libres de couleur... Alors les esclaves, c'est différent, parce que les esclaves, ils ne choisissent pas. Mais les libres de couleur, ils choisissent leur programme. C'est des musiciens libres, hein, donc ils choisissent ce qu'ils vont jouer. Ben, ils peuvent tout jouer. Ils peuvent tout chanter. Il n'y a pas de frontières. On ne leur interdit pas quoi que ce soit. On leur interdit absolument rien dans ce qu'ils peuvent jouer. Ce qui est notable quand même... c'est que la situation de ces musiciens est exactement la même que celle des libres de couleur. C'est-à-dire les droits civiques ne sont pas les mêmes. Donc ce qui se passe à l'orchestre, ok, il n'y a pas de problème, ils peuvent tout jouer et ils peuvent effectivement être l'égaux de leurs collègues. Mais dès qu'on sort de la salle, alors là, les hiérarchies sociales et socio-raciales reprennent cours et ils ne sont pas au même niveau que les autres. Pour donner un seul exemple de Joseph César, si on regarde tous les actes paroissiaux qui sont en disposition au Cap, Joseph César ne signe jamais quand c'est un collègue blanc. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui meurent, hein. Il y a des collègues qui ont des enfants, etc. Donc il y a les autres musiciens, les autres membres de l'orchestre qui mettent une signature, elle n'est jamais là. Les seules signatures de Joseph César qu'on a, c'est quand ce sont des actes de libre de couleur comme lui. Voilà, donc c'est ça la réalité.